22h passées de 30 secondes, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Cette année, ma fille va connaître un changement important, fin de maternelle et passage au CP. C'était important d'envisager un retour à une normalité.
Le retour à l'école dès lundi pour tous les élèves de maternelle, de primaire et du collège. Un retour possible grâce à un assouplissement des mesures sanitaires. L'infirmière placée en garde à vue après avoir jeté des projectiles et insulté les forces de l'ordre à Paris sera jugée en septembre. Elle a reconnu les faits qu'elle a justifiés par une colère et une grande fatigue.
Ma mère, à la base, si elle y a été, c'est pour défendre sa profession. Donc il faut, voilà, faut écouter ça, écouter cette colère.
Le virage écolo d'Emmanuel Macron, les 150 Français de la Convention citoyenne pour le climat vont remettre leurs propositions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et un référendum sur le climat est envisagé. Un nouvel acteur du tourisme dans la tourmente post-Covid, TUI France, envisage de supprimer 2 emplois sur 3 et de fermer ses agences de voyage. Le premier bilan de la commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs au sein de l'Église, elle a déjà recensé au moins 3000 cas potentiels. Et puis la Ligue des Champions, sauvée! On est content de la réentendre, cette musique. La Ligue des Champions de retour donc, mais dans un format inédit avec une phase finale à 8 à Lisbonne au mois d'août. Cyril de la Morinerie nous expliquera tout ça. Du côté du ciel, un peu de patience, le retour du beau temps, c'est pour ce week-end. En attendant, demain, ce sera encore une journée très instable et souvent pluvieuse. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,88% à 4 996 points. Claire Lemaître de boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financière. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'Interview Écho. Ce soir, Carole Ferry reçoit Patrick Labrune, le président du syndicat national des résidences de tourisme. Les réservations repartent très fort à la mer, à la montagne et à la campagne. En revanche, c'est catastrophique pour les villes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le retour de tous les enfants de France à l'école obligatoire à partir de la semaine prochaine. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron le week-end dernier. Et on en sait plus aujourd'hui sur les modalités de cette rentrée, pas comme les autres. Le ministre de l'Éducation a présenté un nouveau protocole avec un élément important, Victor Delande. La distanciation entre les élèves va être beaucoup moins stricte.
Oui, dans la lignée des études épidémiologiques très rassurantes sur la contamination des enfants, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'abandonner totalement les distances en maternelle. À l'école élémentaire, Jean-Michel Blanquer a assuré cet après-midi que le mètre de distance latérale entre les élèves est bien la règle, mais dans certaines classes, on sera obligé d'avoir un peu moins d'un mètre, a précisé le ministre, pour que tout le monde retourne à l'école. Cette absence de distance est donc parfaitement assumé par le gouvernement. Quant au collège, si la distance d'un mètre n'est pas possible, alors le port du masque sera obligatoire pour tous les collégiens. Aurélia va pouvoir remettre sa fille à l'école en maternelle, non sans un certain plaisir.
Ni ma fille ni moi n'avons caché notre joie de cette annonce de reprise à temps plein pour les écoles. Cette année, ma fille va connaître un changement important, fin de maternelle et passage au CP, et c'était important d'envisager un retour à une normalité pour lui permettre d'aborder sa prochaine année sereine.
Autre nouveauté de ce protocole sanitaire allégé, les enseignants ne seront plus obligés de porter un masque si bien évidemment ils sont à bonne distance de leurs élèves. Enfin, les gestes barrières comme le lavage des mains sont conservés jusqu'à la fin de l'année.
Les précisions de Victor Delande du service Société d'Europe 1. On en vient à l'arrestation hier à Paris d'une infirmière de 52 ans à l'issue de la manifestation des soignants. Des images que vous avez peut-être vues sur les réseaux sociaux et sur lesquelles on entendait notamment ceci.
Je suis infirmière,
je fais de l'asthme, donnez-moi ma ventoline, dit cette dame qui un peu plus tôt était filmée en train de jeter des projectiles sur les policiers et de les insulter. En garde à vue, elle a reconnu les faits et elle va être jugée donc pour cela, Marion Dubreuil, en septembre pour outrage, rébellion et violence.
Oui, ce sont des faits qu'elle a bien été forcée de reconnaître en garde à vue, car il y a ces images, ces vidéos qui sont accablantes. On la voit quelques minutes avant son interpellation jeter des pavés en direction des forces de l'ordre et leur faire des doigts d'honneur. Durant son audition, cette infirmière de 52 ans a expliqué avoir craqué, épuisée par la gestion de la crise du Covid à l'hôpital, jusqu'à 14 heures de travail par jour, une vingtaine de patients décédés. Sa fille Imène, venue la soutenir à la sortie du commissariat, espère qu'on retiendra malgré tout ses revendications.
Que cette histoire ne fasse pas oublier ce pourquoi elle était dans la rue à la base. Ma mère, à la base, si elle y a été, c'est pour défendre sa profession. Il faut écouter ça, écouter cette colère, parce qu'elle est là. Elle se manifestera d'une manière ou d'une autre si personne ne l'écoute.
À ce stade, aucune victime directe n'a été identifiée dans les rangs des policiers. Cela pourrait jouer en faveur de cette infirmière qui va comparaître le 25 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle encourt jusqu'à 3 ans de prison.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Par ailleurs, 2 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête, cette fois sur l'agression d'un policier. Toujours en marge de cette manifestation parisienne hier, il a été roué de coups avant d'être finalement exfiltré par ses collègues. Des débats agités cet après-midi à l'Assemblée lors de l'examen du projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire à partir du 11 juillet. Projet qui a finalement été adopté ce soir. Olivier Véran a quand même mis en garde. Notre vigilance, a-t-il dit, doit demeurer intacte. Emmanuel Macron, lui, prépare déjà l'après. Et Michaël Darmon, vous avez ce soir des informations sur la forme que prendra le premier acte.
Oui, c'est devant la Convention citoyenne que le président de la République veut poser le premier acte de cette nouvelle étape, cette nouvelle manière de répartir les pouvoirs. Alors, de sources proches d'Emmanuel Macron, un référendum sur le climat est envisagé et même qualifié, selon ses propres sources, de probable. Toujours selon ses sources au sommet de l'État, le président de la République se rendra donc devant la Convention citoyenne début juillet et dira aux 150 citoyens tirés au sort comment il veut tenir compte de ses propositions. Un référendum donc envisagé qui devra tenir compte également de l'avis du Parlement et c'est à l'étude, toujours donc selon ses sources. Pour le chef de l'État, il s'agit d'inaugurer cette nouvelle page dans la manière de gouverner, d'embarquer les Français dans un projet collectif après la crise sanitaire du coronavirus, comme il avait annoncé lors de sa allocution télévisée de dimanche. La relance sera écologique, sociale et solidaire. Un référendum possible autour du climat, prélude à d'autres changements, notamment un remaniement gouvernemental, aurait donc l'avantage d'être consensuel alors que les tensions économiques et sociales inquiète l'exécutif.
Les informations de Michaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1. Notez que Manuel Valls, ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, sera demain matin l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 à 8h15. Marine Le Pen s'est finalement rendue aujourd'hui sur l'île de Sein pour célébrer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Elle a donc avancé d'un jour son déplacement sur l'île. L'annonce de sa venue, il faut le dire, avait provoqué l'indignation du maire et des habitants. Et des actions de protestation étaient prévues demain matin à Audierne, d'où elle devait embarquer, mais aussi sur l'île de Sein. Le second tour des municipal approche et à Lille, information de notre correspondant Lionel Gougelot, ce sondage IFOP pour la Voix du Nord, sondage qui révèle une situation extrêmement serrée entre la liste de Martine Aubry, créditée de 39% des intentions de vote, et celle de l'écologiste Stéphane Bally avec 37%. La liste emmenée par Violette Spilbou, soutenue par La République En Marche, recueille quant à elle 24% des intentions de vote. Le coronavirus aura eu raison du premier opérateur touristique français, TUI, annonce une restructuration massive. Le groupe, qui compte un peu plus de 900 salariés, va supprimer jusqu'à 2 postes sur 3 et se séparer de toutes ses agences de voyage, Élise Dangean.
Oui, en tout, ce sont près de 600 emplois menacés. Une 60aine d'agences de voyage devraient être cédées ou franchisées. Quant au site de Lyon, eh bien, il sera fermé puisque le groupe veut mettre fin à son activité de voyage sur mesure. Il garde toutefois ses marques Marmara, Lukea ou encore Circuit Nouvelle Frontière, mais veut revoir sa stratégie en profondeur. Seule solution pour traverser la crise, indique la direction. Une décision évidemment très mal vécue par les salariés qui ne s'attendaient pas à un plan d'une telle ampleur annoncé si vite. Lazare Rascala est secrétaire du CSE de TUI France.
On est surtout très remonté parce qu'on estime que TUI avait des opportunités qui pourraient se présenter en septembre. Le marché du tourisme va complètement être bouleversé d'ici quelques semaines, à savoir qu'un certain nombre vont malheureusement déposer le bilan. Et ça présentait donc une opportunité pour TUI France de bien se positionner. Parce qu'il y a un retour actuellement du voyage. On sent que les clients commencent à réserver, à nous interroger. Donc il y a des opportunités qui vont se présenter.
Alors les syndicats promettent, pas question de se laisser faire. Une première assemblée générale avec les salariés est prévue vendredi. Ils réclament également d'être reçus par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avec un objectif, sauver le plus d'emplois possible.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h09, merci de nous écouter. C'est la suite de votre journal et l'Église, face à son passé, après l'affaire du père Prénat et les autres scandales sexuels qui ont impliqué des prêtres. La commission indépendante créée par les évêques, il y a 2 ans, pour recueillir les récits d'abus sexuels commis justement au sein de l'Église, eh bien cette commission a déjà recensé au moins 3000 victimes, Justin Morin.
Oui, et les membres de la commission ont la conviction que ce travail de libération de la parole est encore loin d'être terminé. En un an, ils ont reçu 5300 appels, ce qui a permis d'identifier ces victimes. Près de 150 ont été auditionnées, certaines pendant plus de 2 heures. Le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, haut fonctionnaire très respecté de 71 ans, a lui-même été très touché par la souffrance exprimée dans ses témoignages et surpris surtout par l'ampleur du phénomène. Mais il confie avoir le sentiment de n'être pas encore allé jusqu'au bout de sa mission. Pendant la crise du coronavirus, les appels ont chuté de 50%. L'appel à témoignage a donc été prolongé de 5 mois jusqu'au 31 octobre.
Un certain nombre de personnes n'ont pas encore sauté le pas pour parler parce que c'est trop douloureux ou que peut-être pour elles, ça ne sert à rien. Or, c'est essentiel pour qu'on puisse rendre justice aux victimes. C'est cela qu'il faut provoquer pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. La base de notre travail, c'est la révélation d'un continent caché, les abus sexuels.
Dans la grande majorité des cas recensés, il n'y a pas eu de plainte, les faits sont prescrits. Mais Jean-Marc Sauvé exprime la nécessité de faire mémoire de cette souffrance. La commission a d'ailleurs accès à toutes les archives de l'Église, c'est une première. Le bilan de tous ces travaux doit être rendu au plus tard, en octobre 2021.
Décision signée Justin Morin pour Europe 1. Du nouveau dans l'affaire Mila, vous savez, c'est cette adolescente de 16 ans qui, au début de l'année, sur les réseaux sociaux, avait été insultée et même menacée après avoir vivement critiqué l'islam. 3 mineurs ont été mis en examen pour avoir volé des données informatiques et pour avoir harcelé la jeune fille. Du nouveau également dans l'enquête sur la disparition de la petite Maddy McCann en 2007 au Portugal. On sait depuis 2 semaines, on vous en avait parlé d'ailleurs sur Europe 1, que les enquêteurs s'intéressent à un suspect, un Allemand déjà en détention et condamné par le passé pour pédophilie. Hélène, vous suivez cette affaire à Berlin. Hélène, la police allemande affirme aujourd'hui avoir des preuves solides qui confirment ses soupçons.
Oui, cet homme, Christian Bruckner, serait bel et bien le meurtrier de Maddy. Cela fait 7 ans qu'il est dans le radar des enquêteurs allemands, 7 ans que les témoignages, les indices s'accumulent contre lui. Il y a 2 semaines, la police, ici en Allemagne, a lancé un appel à témoins à la télévision dans l'espoir de décrocher enfin la preuve ultime pour le confondre. Et c'est peut-être grâce à cette démarche qu'aujourd'hui, le procureur peut affirmer que Maddy est morte. Alors même que le corps de la fillette n'a toujours pas été retrouvé, donc pas de preuves médico-légales, et que le suspect continue de nier son implication dans l'affaire. Mais le procureur parle d'une preuve concrète. D'après plusieurs médias, cela pourrait être un ancien élément qui livre aujourd'hui d'autres informations. Un indice négligé lors de la perquisition dans son mobilhome en 2016. C'était dans le cadre des recherches suite à la disparition d'une autre enfant ici en Allemagne. Et chez lui, on avait retrouvé des maillots de bain de petite fille et enterré dans son terrain 6 clés USB et des disques durs avec des milliers d'images et de vidéos pédopornographique.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Après des mois d'arrêt et de frustration pour les fans de foot, ça y est, les affaires reprennent. L'UEFA a tranché et on a ce soir l'ébauche d'un calendrier. Cette fin de Coupe d'Europe de foot sera totalement inédite. On rappelle que le PSG et Lyon sont toujours en lice. Les 8 meilleures équipes vont se retrouver, Cyril de la Morinerie, à Lisbonne pour jouer la phase finale au mois d'août.
Oui, petite révolution, la Ligue des Champions va se conclure sous la forme d'un tournoi quart de finale, demi-finale et finale du 12 au 23 août. Compétition qui se jouera désormais sur un seul match et non en match aller-retour avec 5 remplaçants possibles au lieu de 3 et donc dans une seule ville, Lisbonne, la capitale portugaise préférée à Istanbul car relativement épargnée par le coronavirus. Sauf que le Portugal voit ressurgir la pandémie, ce qui, pour le moment, ne remet pas en cause cette nouvelle formule, confirme le président de l'UEFA, Alexander Seferin.
Nous sommes en contact permanent avec la fédération portugaise, qui elle-même est en lien direct avec les autorités du pays. Pour le moment, tout va bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'avoir un plan B.
La présence du public à Lisbonne dépendra de l'évolution du contexte sanitaire, même si pour l'instant, il est prévu de disputer ces matchs à huis clos. 4 équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour ce mini-tournoi, dont, vous l'avez dit, le PSG. Quant à Lyon, il doit encore jouer son 8e de finale retour contre la Juventus le 7 ou 8 août prochain, soit à Turin, soit au Portugal.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Ce soir, c'est la reprise du championnat anglais, avec notamment la rencontre Manchester City-Arsenal. Arsenal, 1-0 à la mi-temps pour Manchester, mais tout ça dans des stades vides et avec des pubs fermés. Les joueurs des clubs qui jouaient ce soir, les 4 clubs, Aston Villa et Sheffield, Manchester City et Arsenal, ont tous mis un genou à terre avant le coup d'envoi de la rencontre. Cette rencontre entre Aston Villa et Sheffield s'est soldée par un score vierge. En tennis, cette fois, c'est officiel, le tournoi de Roland-Garros est programmé du 27 septembre au 11 octobre et ce sera bien sûr avec Europe 1, radio officielle. L'hypothèse de jouer à huis clos est absolument écartée, dit ce soir le président de la Fédération française. La météo, on voit ça tout de suite avec vous Anissa Haddadi et avec encore pas mal d'instabilité pour demain.
Oui, ça continue Isabelle, hein, toujours ce même temps qui se poursuit. Alors je vous rassure, un anticyclone arrive, ça devrait se calmer et s'arranger dans les prochains jours. Mais demain, nous aurons déjà sur la Normandie et la Gironde des coups de tonnerre dès le lever du jour. Et puis dans l'après-midi, eh bien, ces orages ils vont se multiplier. Ils vont arriver sur le Limousin, le Massif central, le Centre-Val de Loire, les Alpes et les Pyrénées. Les averses sont aussi beaucoup plus nombreuses demain après-midi. Elles vont toucher la Bretagne, la Normandie, le Limousin, la Franche-Comté et les reliefs Corse. Et puis sur le littoral méditerranéen, et bien même comme sur le Pays Basque, sur le Languedoc, attendez je regarde où il y a du soleil, hein, sur la région bordelaise, les Ardennes, la Bourgogne, la région lyonnaise, et bien là dans toutes ces régions vous aurez la chance de profiter de beaux rayons de soleil demain. Les températures elles sont stationnaires, demain matin ça bouge pas, hein. On aura 10 à 16 degrés en moyenne, 9 degrés à Rodez au plus frais, 10 à Clermont-Ferrand et Belfort, 11 à Bordeaux, Colmar et Rouen, 13 à Paris, 15 à Perpignan et jusqu'à 17 à Toulon. Et c'est encore frais en moyenne demain sur l'ensemble du pays avec seulement 17 à 22 degrés. Bien plus doux et agréable au sud, au bord de la Méditerranée avec 24 à 28 degrés.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, c'est la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité de Carole Ferry qui reçoit ce soir Patrick Labrune, le président du syndicat national des résidences de tourisme. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17, merci à vous d'écouter Europe 1. Et vous le savez, comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse à la bourse. Et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et beaucoup d'incertitudes hein, du côté des marchés à Wall Street. Les indices ont beaucoup hésité.
Oui, c'est finalement du rouge pour le Dow Jones. Repli de 0,65% à 26 119 points. Le Nasdaq s'en sort un peu mieux en hausse de 0,15% à 9 910 points. Les marchés sont perturbés par les annonces de nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis. Les hospitalisations ont par exemple bondi de 11% au Texas en une seule journée. Et puis il y a aussi Pékin qui reconfine ses habitants. Et tout cela inquiète beaucoup pour la reprise de l'économie. Alors ça se ressent du côté des valeurs. Norwegian Cruise Line plonge de 8,4%. La compagnie basée à Miami va prolonger la suspension de ses croisières jusqu'à la fin du mois de septembre en raison de la pandémie. Le sidérurgiste US Steel lâche lui 10%. Les prévisions de pertes sont bien plus importantes que prévues pour son deuxième trimestre fiscal. La faute là aussi à la crise qui a paralysé l'activité. Le pétrole recule ce soir. Le baril de brut léger américain WTI 7,06% à 38,13 $ sur le NYMEX.
Et le marché parisien, lui, se rapproche de la barre des 5000 points.
On termine à 4 995 points. Le CAC 40 poursuit sa progression en hausse de 0,88% malgré quelques hésitations liées là aussi à l'épidémie. Sanofi, un des poids lourds du CAC 40, monte encore de 2,9%. Le laboratoire a annoncé hier des investissements pour la recherche sur des vaccins. C'est du vert aussi pour le luxe. Ça monte pour LVMH, Hermès, mais aussi Kering, qui gagne 2,4%. Kering qui a annoncé l'entrée à son conseil d'administration de l'ancien directeur général de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, ou de l'actrice britannique Emma Watson.
Vous nous en direz tant. Et la séance claire, en revanche, a été difficile pour le secteur automobile.
Oui, le plongeon a ralenti, mais ça reste impressionnant. Les immatriculations de voitures neuves ont baissé de 52% en Europe le mois dernier, après un décrochage de 76% en avril. Du coup, Renault chute de 3,7% et le titre Peugeot perd 0,5%. Encore une séance difficile aussi pour Air France KLM. Le plan d'Air France, qui sera dévoilé fin juin ou début juillet, devrait compter de 8000 à 10000 suppressions de postes, selon le journal Les Échos. Les marchés européens doutent ce soir et ils terminent dans le désordre. Plus 0,2% pour Londres, plus 0,5% pour Francfort, mais Madrid et Milan perdent 0,2%. Et à Paris, le CAC 40 gagne 0,9%, 4 495 points.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de boursier.com. Il est temps de retrouver l'invité Écho. Carole Ferry, vous recevez ce soir le président du syndicat national des résidences de tourisme.
Patrick Labrune, bonsoir. Vous êtes le président du syndicat national des résidences de tourisme. Alors après de longues incertitudes, est-ce que vous commencez enfin à voir aujourd'hui le bout du tunnel ?
Ah, tout à fait. On voit le bout du tunnel depuis le 27 mai et les annonces du Premier ministre sur le déconfinement. Nous avons une reprise de réservation qui est spectaculaire. avec des taux de progression par rapport à la même période de 2019 qui sont sur des niveaux jusqu'à x3 ou x4. Cela dit, il y a du chemin à faire puisque en fait, pendant 2 mois et demi, nous n'avons pas eu d'activité, à la fois en réception mais également en prise de réservation. Et donc, voilà, on est très satisfait de cette reprise qui est spectaculaire pour les résidences de vacances. Mais le chemin qui reste à parcourir est très très long et on ne rattrapera pas tout ce que l'on a perdu. Tout le printemps, la fin de la saison à la montagne qui a été interrompue brutalement le 14 mars, le printemps, les vacances scolaires de printemps, les ponts de l'ascension de la Pentecôte.
Quelles sont les mesures mises en place dans les résidences de tourisme au niveau du protocole sanitaire ?
Alors le protocole sanitaire, en fait, il couvre l'ensemble des phases d'accompagnement d'un vacancier, c'est-à-dire depuis l'arrivée du vacancier. Donc on a dans nos réceptions des aménagements à la fois de distanciation physique, de plexiglas, de port de masque, etc. Enfin des choses qui sont aujourd'hui tout à fait classiques. Des distributeurs de gel alcoolique à tous les étages. Alors, je ne peux pas vous faire le catalogue détaillé de toutes ces mesures, mais en fait, notre charte sanitaire a été établie en commun avec les villages de vacances et donc elle a été agréée par différents ministères et notamment les ministères de la Santé et du Travail.
Je crois que vous recevez beaucoup d'appels sur les éventuelles mesures de restriction. Est-ce que vos clients vous appellent parce qu'ils ont besoin d'être rassurés sur les mesures de sécurité ou sur la liberté dont ils vont pouvoir disposer pendant leurs vacances ?
Les deux à la fois. Les deux à la fois, c'est ce qui est paradoxal. Donc, c'est que les vacanciers sont demandeurs de réassurance sanitaire. Ils ont besoin d'être assurés. Et en même temps, les vacances, c'est quand même un peu la liberté. Donc, donc il y a certaines contraintes. La plus grosse contrainte, c'est une limitation de la capacité simultanée d'accès aux piscines. Pour la clientèle de vacanciers, ce sera la plus importante des contraintes, c'est-à-dire que nous allons diminuer par deux la fréquentation des piscines, de manière à respecter les espaces de distanciation physique. Et donc, dans certaines piscines, à certaines périodes de très haute saison, on peut être amené, par exemple, à distribuer des bracelets aux clients et à organiser des accès pour la matinée ou pour l'après-midi pour diviser et diminuer la fréquentation simultanée dans nos piscines.
Quelles sont les régions où les Français réservent le plus en ce moment ?
Alors actuellement, les Français sont très attirés par les grands espaces, ce qu'on peut comprendre. Donc les régions qui réservent le plus, c'est l'arc atlantique, qui fait l'objet d'une demande très importante. Également l'Occitanie, où on trouve des plages qui sont immenses. Et d'ailleurs, au niveau des labels pavillon bleu qui ont été décernés cette semaine, on trouve 27% de plages pavillon bleu dans la seule région occitane. La montagne et la campagne fonctionnent très bien. En fait, on trouve le besoin, la recherche d'espace. Les gens ont été confinés pendant 2 mois et demi et ils cherchent aujourd'hui de l'espace et de la nature.
L'été, ça se présente bien là pour l'instant ?
Alors l'été se présente très bien, à l'exception d'une... Il y a quand même des points noirs. Donc en matière de résidence, de tourisme, de vacances, on a 2 régions qui sont vraiment très affectées par la crise. La première région, c'est la Corse, où le redémarrage se fait difficilement pour des questions de transport qui ont été débloquées ou allégées ces derniers jours, notamment pour le transport aérien. Il y a des contraintes de distanciation pour le transport maritime qui font que les prix ont peut-être un petit peu trop augmenté. La recette que je donne aux clients pour partir en Corse, c'est d'essayer de partir en milieu de semaine parce que les transports sont 2 fois moins chers en milieu de semaine qu'en week-end. Donc ça, c'est vraiment le tuyau, l'astuce pour partir en Corse. Et puis on a une deuxième région qui est affectée par probablement par le souvenir des débuts de la crise du Covid, c'est le Grand Est, avec des endroits comme l'Alsace, les Vosges, qui sont des endroits magnifiques, qui sont aujourd'hui tout à fait sécurisés et pour lesquels la demande n'est pas là actuellement. Et puis le gros point noir de l'été, ce sont les résidences qui sont situées en ville, du fait de l'absence des festivals, de l'absence de la clientèle étrangère, puisqu'aujourd'hui la clientèle étrangère n'est pas de retour. Et je pense que chaque Européen va rester chez soi cet été, ça va être la grande tendance. Donc nos appart-hôtels en ville sont vides. Paris marche très mal, c'est catastrophique, enfin pour les établissements de standing notamment. Les taux d'occupation sont de 10 à 15% actuellement. Et alors avec très peu de visibilité sur la reprise, notamment en raison de l'absence de la clientèle internationale. Donc la situation des résidences de tourisme en ville est assez, est assez frappante, y compris pour des villes comme par exemple Bordeaux. J'ai été surpris en échangeant avec des adhérents. Aujourd'hui, le carnet de commandes des professionnels des résidences de tourisme à Bordeaux pour l'été, le carnet de commandes est catastrophique, avec des taux de réservation qui sont de l'ordre de 15%. Donc, j'incite les Français à faire un petit détour par les villes de patrimoine. Il y a du tourisme intéressant, itinérant, culturel, gastronomique à faire. Et je pense que les prix cet été dans les résidences de tourisme de ville seront des prix très attractifs. Donc on a un gros souci actuellement sur le remplissage de ces résidences.
Merci Patrick Labrune.
Merci.
Excellente soirée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous Carole Ferry, on vous dit à demain. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. L'économie française sort enfin de son sommeil pour les échos. La chute du PIB est moins marquée que prévu au deuxième trimestre, selon l'INSEE, qui souligne la bonne tenue de la consommation, tandis que le nombre d'heures en chômage partiel a diminué de moitié au mois de mai. Écologie, le référendum qui vient, titre l'opinion, on vous en parlait tout à l'heure avec Michaël Darmon. C'est l'heure pour les 150 Français de la Convention citoyenne de confronter le président à ses promesses. Dimanche, ils lui présenteront les propositions qu'il veulent soumettre à la nation. Silence, on empoisonne, titre Libération. Enquête exclusive sur les perfluorés, ustensiles, textiles, emballages alimentaires présents dans de nombreux objets du quotidien. Les perfluorés contaminent la population sans que les autorités françaises ne réagissent, dit Libération. Le visage du général de Gaulle à la une de la Croix qui titre un certain 18 juin. Emmanuel Macron a choisi Londres pour commémorer demain l'appel du général en 1940. 1940-2020, 18 juin, un appel contre le renoncement pour le Figaro. Il y a 80 ans, le général de Gaulle s'adressait aux Français depuis Londres. Son message invitait à la résistance et annonçait le redressement. Une voix qui résonne encore, écrit Isabelle Bollène dans le journal L'Alsace. La commémoration du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin prend cette année une résonance singulière. Comme si le souvenir de cette guerre 39-40 nous renvoyait à notre guerre actuelle, celle menée contre le virus. Les deux situations, bien sûr, ne sont pas comparables, précise la journaliste, mais quelque chose fait écho entre les deux écopes et les deux époques. Ce sentiment d'abord que dans un cas comme dans l'autre, on se croyait préparé et qu'en fait on ne l'était pas. L'ennemi avait un coup d'avance et on a sous-estimé le péril. Résonance aussi dans les défis auxquels la jeunesse doit ou devra faire face. En 1945, il a fallu tout reconstruire et bâtir un monde nouveau. Nos enfants, eux aussi, devront se retrousser les manches pour affronter le réchauffement climatique et pour faire naître un monde plus vert et plus solidaire. Résonance enfin entre ces deux défis, construire l'Europe après 1945, la réinventée aujourd'hui pour éviter qu'elle ne s'effondre. Étrange ironie d'ailleurs que de voir Emmanuel Macron célébrer cet anniversaire du 18 juin à Londres, à l'heure où l'ancien allié anglais tourne le dos au continent qu'il a contribué à sauver. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des une de vos journaux que vous découvrirez demain matin dans vos kiosques. Il est 22h30, merci à vous d'écouter Europe 1. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 23h pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.